Fidèles auditeurs du studio Kalangou, bonsoir et merci de recevoir l'édition de 17h. Tout de suite, les titres. Fin de formation à l'école des surveillants d'élevage de Maradi. 16 nouveaux diplômés ont reçu des kits de matériel vétérinaire. Les détails dans un instant. La direction de la protection des végétaux a organisé hier un point de presse sur la campagne agricole de cette année. Des précisions dans ce journal. La partie magazine d'aujourd'hui s'intéresse aux effets secondaires des pommades anti-moustiques. Mardi 10 septembre 2024, vous êtes au micro de Rukayat Abdrahmane et comme annoncé, cérémonie de remise de diplômes et de kits vétérinaires aux auxiliaires de l'élevage après 9 mois de formation à l'école des surveillants d'élevage de Maradi. 16 agro-pasteurs venus de Difa, Tawa et Tillabéri ont été formés. Ces agents formés ont reçu ce matin un appui du CIRC, composé de kits matériels et un bon d'achat de produits vétérinaires de 300 000 francs CFA. Une initiative saluée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Alhaji Ousmane Mahamman, au micro de Mama Ada.
Après l'expérience de 2010, nous avons continué ensemble pour pouvoir véritablement former un certain nombre de jeunes Nigériens qui ont un niveau de brevet ou qui se retrouvent dans ces zones. Le choix est fait par leur communauté. On les amène, on les forme et ils vont repartir chez eux. Ce qui les permet d'avoir un bon début d'usage, d'application de ce qu'ils ont appris à l'école et être encore des services d'alerte aux villages les plus reculés pour véritablement donner l'alerte aux services de santé animale. C'est là un apport extraordinaire. Et vous avez vu, de plus en plus, nous avons l'arrivée des jeunes filles dans ça. C'est extrêmement important aussi. Donc ça veut dire que l'élevage, ce n'est plus pour une affaire des hommes, mais les femmes aussi s'intéressent à l'élevage et deviennent des agents pour véritablement être des agents de base. Et nous sommes en train de voir comment permettre ces jeunes qui sont sortis de l'école de surveillance des maladies pour qu'ils aient des possibilités de continuer à Kolo 1 an, 2 ans pour pouvoir être renforcé des capacités, être des agents sur le terrain.
La campagne agricole de cette année a été relativement calme et très pluvieuse, annoncent les services de la protection des végétaux. Néanmoins, au cours des différents stades de développement des cultures, on note des attaques de quelques ennemis de culture ici et là qui sont aujourd'hui sous contrôle, a indiqué hier à Niamey Issa Manou. Il est le directeur général de la protection des végétaux, des propos recueillis par Aligne Li Abdelmoumouni.
Au 31 août, nous avons 30 402 hectares déclarés infestés et nous avons traité 24 477, soit 80,50% du point de vue couverture. Ces attaques-là, elles émanent de plusieurs types d'ennemis. Les premiers ennemis, on les a arrêtés un peu partout, surtout au début de la campagne, les insectes. Nous avons 11 255 hectares infestés et dont nous avons traité 8 156. Maintenant, ils sont suivis par les cicadelles, suivis par les chenilles. Ces chenilles-là qui attaquent à une seule constituent 40% de nos superficies déclarées infestées. Alhamdulillah, aujourd'hui, la situation est sous contrôle et la campagne agricole a été très pluvieuse. Et vous savez, avec donc la pluie, effectivement, même les ennemis, eux aussi, ils reconnaissent une chute. Les chenilles ne résistent pas à des grandes pluies.
La ville de Niamey a publié un communiqué dans lequel il interdit la divagation des animaux dans la capitale faute de sanctions. Hier, lundi 9 septembre, les responsables de la ville ont animé un point de presse pour expliquer le communiqué. Mohamed Abdoulaye, conseiller juridique de la ville de Niamey, pour d'autres détails, des propos recueillis par Hassan Nour Abdrahman.
Il y a eu plusieurs actes réglementaires qui ont été pris, déjà en 2018 et en 2020. Mais cet acte particulier, il a l'avantage d'être un peu global, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'interdire et de prévoir des amendes, mais il s'agit également d'aller au-delà. Après un certain nombre de temps de garde de l'animal, l'animal peut être vendu aux enchères. Le propriétaire peut toujours poursuivre, récupérer le reliquat du montant de son animal, mais après 1 an, le prix de vente de ce bétail-là devient propriété de la ville. Également, interdiction de la vente de bétail dans les rues et les places publiques de la ville de Niamey. Mais à l'approche de la fête de Tabaski, peut-être 2 mois avant, la ville de Niamey peut délivrer des autorisations à ceux qui en ont besoin pour exercer leur commerce de vente d'animaux. L'autorisation se prend à la ville de Niamey contre paiement d'une certaine somme.
Les récentes fortes précipitations enregistrées dans la commune de Gaya ont causé des dégâts, notamment l'effondrement de plusieurs habitations. Face à cette situation, l'État a décidé d'intervenir en apportant son soutien aux premières victimes du sinistre. Des sacs de riz seront distribués pour alléger la souffrance de ces familles touchées. Bachir Moussa Salah, administrateur délégué de Gaya, explique au micro de Fadel Alou.
Ces sinistrés-là, pour une première vague, ils sont au nombre de 373 personnes. Donc ces 373 personnes-là ont eu un appui de l'État qui constitue 373 sacs de riz de 50 kilos. C'est-à-dire que chaque ménage aura un sac de 50 kilos de riz. C'est ce qui est à notre disposition. Et ce riz-là a été fait selon les premiers inscrits. Donc vous allez remarquer ici que certains quartiers ne figurent pas ici. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de sinistrés là-bas, mais ils sont soit dans la deuxième vague ou dans la troisième vague. Donc pour le moment, c'est la première vague qui est venue.
La situation d'insécurité qu'a connue la région de Diffa depuis 2015 a impacté négativement le développement de la région. Selon le HCR, la région a accueilli plus de 250 000 personnes affectées par les chocs climatiques et sécuritaires à la date du 31 janvier 2024. Le commandant Issaka Assoumane, préfet de Ndjindjimi, au micro de Abdoulaye Meina.
Au 31 janvier 2024, la région de Diffa abritait 258 114 personnes en situation de déplacement forcé, comprenant 116 310 réfugiés, 104 656 personnes déplacées internes, 35 172 Nigériens résidant au Nigeria et forcés de fuir vers leur pays d'origine et 1936 demandeurs d'asile selon le HCR. Les conséquences liées à cette situation sont multiples. Du point de vue social, l'on observe un déchirement du tissu social des communautés affectées, l'inaccessibilité aux services sociaux de base, dont la santé, les écoles, les infrastructures hydrauliques, impactant sur la santé des populations, la déscolarisation des enfants. Du point de vue économique, plusieurs communautés noyées dans une extrême pauvreté pour fait de déplacement, limitant leur accès aux moyens de subsistance les plus élémentaires.
Les feux optiques ou tricolores de quatre grands carrefours de Niamey ont été rétablis par la ville au grand soulagement des usagers de la route. Écoutons quelques-uns au micro de Zainabou Traoré.
Maintenant que les feux optiques fonctionnent, il faut vraiment être obstiné pour brûler le feu rouge et occasionner un accident. Mais si nous respectons tous ces feux, il n'y aura pas de problème. C'est une bonne initiative car leur réhabilitation a réduit les accidents.
La stop, c'est bon. Mais s'il n'y a pas de stop, comment on va faire s'il n'y a pas de feu rouge? Même si tu es au code, la situation elle va te tromper une jour. Mais s'il y a feu rouge, tu vois, tu vas rester. C'est que tu connais qu'on t'attendre. On dit que stop, tout le monde au Niger. Les enfants là connaissent stop au Niger.
Lorsque ces feux ne fonctionnaient pas, les automobilistes et les motocyclistes ont du mal à bien circuler sur les routes car chaque mètre parcouru est un risque pour eux. Aussi, leur réhabilitation est un ouf de soulagement. Nous espérons que l'initiative se poursuivra, parce qu'actuellement, au niveau de chaque rond-point où les feux optiques sont fonctionnels, chaque usager sait où aller, quand passer et quand il faut céder le passage.
Sujet éducation, l'université d'Andiko Dankloodo de Maradi a engagé depuis quelques jours la construction de 3 blocs administratifs pour les facultés d'agronomie, de médecine et des sciences et techniques. Construits sur fonds propres à hauteur de 600 millions de francs CFA, ces 3 blocs vont servir également de bureaux aux enseignants-chercheurs. Selon le recteur de l'université, professeur Sani Mamman, cela a été rendu possible grâce à la transparence de la gestion des ressources internes générées par l'université. Il est au micro de Mohamed Mama.
Les deux premiers, ce que vous avez remarqué au niveau de la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement et celui de la faculté des sciences de la santé, ce sont des chantiers qui devraient démarrer depuis 2023. Ça a pris du retard à cause donc des mesures restrictives donc à l'accès des fonds au niveau des banques. Mais en ce qui concerne le troisième chantier, qui est celui de la faculté des sciences et techniques, il vient de démarrer en 2024. Et vous avez constaté que le démarrage est au niveau donc de la fondation, du plan fondation. Donc ces trois chantiers vont permettre pour la première fois depuis la création de notre université de loger des enseignants-chercheurs. car depuis la création de cette université en 2010, il n'y a jamais eu création de bureaux pour les enseignants. Donc du coup, chaque bloc administratif va permettre d'abriter au minimum 100 enseignants-chercheurs, y compris les bureaux des responsables administratifs, c'est-à-dire des chefs de département et des doyens.
Éducation toujours, la rentrée académique à l'Université Abdoumouni de Niamey, prévue pour le 2 septembre 2024, a finalement eu lieu hier 9 septembre. Ce report était dû à un mot d'ordre de 112 heures reconduit par le comité exécutif de l'Union des étudiants de l'Université de Niamey Yenoun, protestant contre les difficultés de transport des étudiants en vacances à l'intérieur du pays. Hassan Soulay Kaderi, SG de Lyonoun, au micro de Ali Monkaïla Houssin.
Il a fallu hier le 9 août que la rentrée puisse évidemment s'effectuer de façon que nous pouvons appeler officiellement effective. Même si dans les faits, il faut reconnaître que ces derniers temps, il y a un phénomène qui va certainement avoir d'impact sur l'effectivité des activités académiques, à savoir la question des élections rectorales qui se sont déjà annoncées et qui ont fait en sorte que les anciens chercheurs et chercheurs de l'Université de Niamey tournent autour plus aussi des questions électorales. Je ne dis pas que ça va les déconnecter des activités académiques, mais certainement les candidats auront des difficultés et ceux qui les soutiennent de façon très effective à accomplir leurs devoirs dans ce peu de temps-là.
Du sport dans cette édition, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le MENA du Niger a arraché un match nul 1-1 face aux Black Stars du Ghana hier à Barkane au Maroc. C'est Alidou Seydou qui a ouvert le score à la 44e minute, donnant l'avantage aux Ghanéens. Le Niger n'a pas baissé les bras et à la 81e minute, Omar Sako a égalisé, permettant ainsi aux Nigériens de décrocher le match nul. La prochaine rencontre du MENA aura lieu en octobre contre l'Angola en double confrontation. Et puis la partie magazine de cette édition. Au Niger, l'on remarque beaucoup de personnes qui utilisent les pommades anti-moustiques, surtout pendant l'hivernage, pour se protéger contre les piqûres des moustiques. Seulement, l'utilisation de ces pommades, souvent non recommandées, peuvent présenter des effets nocifs pour la peau, suivant ce reportage de Rafia Moussi.
La pommade anti-moustique est une pommade qu'on applique sur la peau pour repousser les moustiques et se protéger contre le paludisme. Seulement, certaines personnes utilisent cette pommade sans demander conseil auprès des spécialistes, une pratique qui n'est pas sans conséquence sur la peau. Dr Halid Sidibé Ramatou, dermatologue et vénérologue à l'hôpital CHU de Niamey, explique les pommades qui sont appropriées.
Il y a beaucoup de pommades anti-moustiques sur le marché, mais il y a certaines qu'on préfère par rapport à d'autres parce qu'elles ont moins d'effets secondaires, elles sont moins nocives pour la santé. Parmi celles qu'on préfère, il y a celles qui sont à base de DEET. Les effets secondaires des pommades anti-moustiques, la première dont beaucoup de gens se plaignent, ce sont les irritations. À certaines personnes, dès qu'elles appliquent une pommade anti-moustique, ça gratte.
Une utilisatrice de cette pommade anti-moustique, Fridos Ayuba, explique la raison pour laquelle elle utilise cette pommade.
Nous appliquons ces pommades pour nous protéger des piqûres de moustiques, car leur piqûre n'est pas sans conséquence. Et c'est surtout le soir que nous l'appliquons depuis bientôt 2 ans, et toute la famille d'ailleurs. Nous ne voyons aucun inconvénient à ces pommades. Il faut juste éviter tout contact avec les yeux, mais l'appliquer sur certaines parties du corps telles que les pieds et les mains.
Ces pommades anti-moustiques vendues à la criée ou dans la rue peuvent engendrer des effets secondaires. Selon la dermatologue Dr Halidou Sidibé Ramatou, elle donne quelques conseils aux utilisateurs.
L'anti-moustique n'est pas un produit sans danger. Surtout chez les enfants, c'est des produits à manipuler avec beaucoup de précautions. Déjà, chez les enfants de moins d'un an, on n'applique pas de pommade anti-moustique. C'est à partir de 1 an et ça aussi, c'est pas toutes les molécules. Et aussi, quand vous appliquez les pommades anti-moustiques, il faut savoir que c'est à des heures, c'est à des intervalles réguliers. On va dire aux gens, quand vous allez appliquer l'anti-moustique, d'éviter d'appliquer sur les yeux et les contours des yeux.
Et c'est là que se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivie.